Vous écoutez, on lit pour vous.
Que savez-vous vraiment sur l'obésité? Un texte commandité paru le 13 avril 2025 dans la presse. Mauvaises habitudes de vie, manque de volonté, alimentation inadéquate, sédentarité. Les mythes entourant l'obésité et les facteurs qui l'influencent sont nombreux et persistants. Serez-vous départager le vrai du faux sur le sujet? Parmi les facteurs suivants, lequel peut exercer une influence sur l'obésité? A. La génétique. B. La situation socio-économique. C. Le niveau d'activité physique. D. Les habitudes alimentaires. E. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. Dans les dernières décennies, les avancées scientifiques ont révélé que l'obésité est le résultat d'une multitude de facteurs, y compris la génétique. On sait donc aujourd'hui que, contrairement à la croyance populaire, des facteurs indépendants de la volonté de chacun entrent en ligne de compte. Pour certaines personnes, manger moins et faire de l'exercice peut ne pas être suffisant. Or, un sondage récent réalisé par la firme Léger montre que les mythes entourant l'obésité et ses causes sont tenaces, puisque seulement 40% de la population québécoise reconnaît l'obésité comme une maladie. 2. Vrai ou faux? L'obésité est considérée par des organisations internationales et nationales comme une maladie chronique au même titre que le diabète, la polyarthrite rhumatoïde ou la fibrose kystique. Vrai. L'obésité est reconnue comme une maladie chronique par un nombre grandissant d'organisations et de professionnels de la santé, dont l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Bien que l'obésité et ses causes soient de mieux en mieux comprises sur le plan scientifique, au Québec, ce problème de santé n'est pas encore désigné comme une maladie chronique. 3. Au Québec, quelle est la proportion d'adultes qui sont considérés comme des personnes vivant avec l'obésité? A. 8%. B. 17%. C. 29%. D. 35%. Parmi la population adulte, 29% des Québécois vivent avec l'obésité. C'est donc près d'un adulte sur trois qui doit vivre avec ce problème de santé. Ici, comme ailleurs dans le monde, on observe une augmentation marquée des taux d'obésité. L'OMS rapporte en effet que ceux-ci ont plus que doublé au sein de la population adulte mondiale depuis 1990. Un bon nombre de changements sociétaux pourraient expliquer cette hausse, dont l'alimentation, les modes de travail, les niveaux d'activité physique, ainsi que l'insécurité alimentaire. 4. Lesquelles de ces complications pour la santé peuvent être associées à l'obésité? A. Hypertension. B. Diabète de type 2. C. Maladie cardiaque. D. Certains types de cancers. E. Toutes ces réponses. Toutes ces réponses. L'obésité est associée à plus de 200 complications qui affectent la santé. Les personnes vivant avec l'obésité sont d'ailleurs 94% plus à risque d'être hospitalisées, ce qui a une incidence importante non seulement sur elles, mais aussi sur le système de santé et l'économie. Au-delà de l'excès de poids et des considérations esthétiques, l'obésité est une maladie grave et progressive, ayant des répercussions importantes sur les personnes qui en sont atteintes ainsi que sur leurs proches. 5. Vrai ou faux? La chirurgie bariatrique est le seul traitement médical à long terme à être reconnu pour traiter l'obésité. Faux. Bien que l'alimentation et l'activité physique jouent un rôle essentiel dans la gestion du poids, il existe d'autres options, notamment l'exercice ou la thérapie comportementale visant la modification des comportements. Dans certains cas, la chirurgie bariatrique et ou les médicaments pour la perte de poids peuvent être suggérés en traitement combiné portant sur l'alimentation et l'activité physique. Ces interventions devrait être adapté selon la situation de chaque patient. Il existe des risques associés à la chirurgie bariatrique et aux médicaments. C'est pourquoi il est important de discuter de ces options avec un professionnel de la santé. Un sondage mené par Léger pour le compte de Novo Nordisk révèle que 4 Québécois sur 5, 80%, estiment que le gouvernement et le système de santé publique devraient en faire davantage pour aider les personnes vivant avec l'obésité. Consultez un professionnel de la santé pour obtenir des conseils et connaître les options à votre portée. C'était « Que savez-vous vraiment sur l'obésité ?» un texte commandité paru le 13 avril 2025 dans La Presse.
Alzheimer. Une nouvelle étude établit un lien entre le déclin cognitif et la taille d'une zone du cerveau. Un texte d'Eleftheria Kodosaki, paru le 24 mai 2024 dans La Conversation. Une petite zone du cerveau de la taille d'un cheval de mer est responsable de la majeure partie de notre apprentissage et de notre mémoire. Cette zone, appelée hippocampe, est essentielle à plusieurs fonctions cérébrales importantes, notamment la transformation des souvenirs à court terme en souvenirs à long terme, la régulation des émotions et la navigation spatiale, c'est-à-dire la capacité à planifier où aller et comment y arriver. Avec l'âge, il est normal que l'hippocampe perde un peu de volume, mais pour certaines maladies, comme l'Alzheimer, cela se fait plus rapidement. La diminution du volume de l'hippocampe est souvent détectée très tôt chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et celle-ci tend à précéder les signes de déclin cognitif. La présence d'amas de protéines dans le cerveau, en particulier de protéines bêta-amyloïdes et tau, TAU, a également été associée au déclin cognitif chez certaines personnes, qu'elles souffrent ou non de la maladie d'Alzheimer. Cependant, une étude récente publiée dans Neurologia montre que le rétrécissement de l'hippocampe entraînait un déclin cognitif, qu'il y ait ou non présence d'amas de protéines. Cette découverte pourrait être importante tant pour le traitement de la maladie d'Alzheimer que pour celui d'autres pathologies neurodégénératives. Pour mener leur étude, les chercheurs ont recueilli pendant 10 ans des données auprès de 128 personnes âgées qui ne présentaient aucun signe de déficience cognitive au départ. Ces données concernaient les performances des participants aux tests cognitifs. Les scientifiques ont également procédé à des examens d'imagerie cérébrale pour évaluer le volume de l'hippocampe et déterminer si les patients développaient d'autres marqueurs de troubles cognitifs dans le cerveau, tels que des enchevêtrements de tau et des plaques amyloïdes. Les protéines tau et bêta-amyloïdes sont importantes pour le bon fonctionnement du cerveau, mais dans certaines pathologies, telles que l'Alzheimer, elles deviennent toxiques et s'agglutinent. Les enchevêtrements de tau détruisent les neurones de l'intérieur, tandis que les plaques amyloïdes s'agglutinent à l'extérieur des neurones. Les chercheurs ont constaté que l'atrophie de l'hippocampe est corrélée au déclin cognitif. Cela demeure vrai même après élimination de l'influence des deux autres facteurs, tau et amyloïdes, de l'analyse. Ils ont également observé que plus l'atrophie se produit vite, plus le déclin cognitif est rapide. En outre, plus le volume de l'hippocampe d'une personne était faible au début de l'étude, plus l'atrophie était rapide. Volume de l'hippocampe. Ces résultats indiquent qu'il existe au moins deux processus qui conduisent au déclin cognitif dans la maladie d'Alzheimer et la démence. Le premier est causé par l'accumulation de tau et d'amyloïdes dans certaines zones du cerveau, et le second par la diminution du volume de l'hippocampe. Ces résultats montrent également que le déclin cognitif lié à une atrophie de l'hippocampe peut signaler la présence d'une autre pathologie. Les auteurs de l'étude considèrent que l'examen du volume de l'hippocampe pourrait être un biomarqueur, signe d'une maladie, utile pour diagnostiquer d'autres conditions affectant le déclin cognitif. Ils estiment que cette découverte pourrait servir à déterminer si une personne peut bénéficier ou non de médicaments qui ralentissent la progression de la maladie d'Alzheimer. En effet, Si le déclin cognitif est principalement dû à une perte de volume de l'hippocampe, les médicaments qui ciblent les plaques amyloïdes n'auront probablement aucun effet. Les chercheurs reconnaissent toutefois qu'après toutes leurs analyses, les résultats présentent une certaine variance qui ne peut être expliquée. Par exemple, certains participants ont une perte de volume de l'hippocampe sans signe de déclin cognitif, tandis que chez d'autres, la perte de volume est faible, mais le déclin est important. Ils attribuent ce phénomène à des facteurs tels que le mode de vie, l'hérédité ou des neuropathologies liées à la formation d'agrégats d'alpha-synucléine, comme la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lévy. Cela ne peut être mesuré en se basant sur le volume de l'hippocampe. Les chercheurs reconnaissent également que leurs données proviennent d'une population qui n'est pas représentative. La plupart des participants étaient blancs et avaient un niveau d'éducation élevé. En outre, il s'agissait d'une étude de groupe, de sorte que des aspects individuels, tels que l'hérédité ou le mode de vie, n'ont pas été pris en compte. Les études futures devraient se pencher sur le lien entre le volume de l'hippocampe et le déclin cognitif dans une population davantage diversifiée et représentative. Santé du cerveau. En plus de la maladie d'Alzheimer, d'autres maladies sont associées à une diminution du volume de l'hippocampe, telles que la maladie de Cushing, la dépression, le syndrome de stress post-traumatique et l'anxiété. Certaines habitudes de vie peuvent également aggraver la perte de volume de l'hippocampe. Ainsi, une mauvaise alimentation et une consommation excessive d'alcool, même chez les jeunes, sont associées à une diminution du volume de l'hippocampe. On a observé, en revanche, que les activités physiques, telles que yoga, entraînement cardio et exercices pour renforcer l'équilibre et la coordination, engendrent une augmentation du volume de l'hippocampe chez les personnes âgées. Si plusieurs éléments contribuent au déclin cognitif, le fait de prendre soin de son cerveau en adoptant de saines habitudes de vie peut avoir un effet positif et le retarder. Cette étude démontre que les plaques amyloïdes et les agrégats de taux ne sont pas les seules causes du déclin cognitif. Mais elle nous indique aussi que différentes causes peuvent agir ensemble ou indépendamment les unes des autres. La recherche devrait se concentrer à l'avenir sur la mise au point de tests et de marqueurs permettant de déterminer l'origine du déclin cognitif d'une personne, ainsi que sur la recherche de traitements qui ciblent les différents facteurs en cause. C'était Alzheimer. Une nouvelle étude établit un lien entre le déclin cognitif et la taille d'une zone du cerveau. Un texte d'Eleftheria Kodosaki, paru le 24 mai 2024 dans La Conversation.
Cinq reculs environnementaux au Québec, un texte d'Alexandre Shields paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir. Les caribous en mal de protection. Le déclin du caribou forestier se poursuit, principalement en raison de la destruction de son habitat par l'industrie forestière, et rien ne laisse entrevoir pour le moment la mise en œuvre de la stratégie provinciale promise depuis plusieurs années pour tenter d'éviter l'extinction de la majorité des populations présentes au Québec. Face à la menace imminente qui pèse sur ces populations, nous avons une responsabilité d'agir pour assurer le rétablissement et la pérennité du caribou, avait d'ailleurs fait valoir l'an dernier le gouvernement fédéral en annonçant son intention d'imposer un décret pour tenter de sauver 3 des 13 populations, soit celle de Pipoumouacan, mais aussi celle de Val-d'Or et de Charlevoix, qui sont toutes deux en captivité. Ottawa n'est finalement jamais allé de l'avant. Le gouvernement Legault a annoncé des mesures provisoires et il promet des projets pilotes pour les cervidés de Charlevoix et de la Gaspésie, mais rien n'a encore été annoncé. Feu vert à Stablex. Après avoir autorisé l'an dernier Nordvolt à détruire des milieux naturels de haute valeur écologique sans que l'entreprise soit soumise à l'évaluation environnementale prévue pour les projets industriels, le gouvernement Legault a autorisé Stablex à détruire une superficie de milieu humide deux fois plus importante pour aménager son nouveau dépotoir. Comme pour Nordvolt, le projet de l'entreprise d'enfouissement de déchets dangereux va faire disparaître des habitats fauniques d'espèces menacées. Blainville et la communauté métropolitaine de Montréal ont tenté en vain de convaincre le gouvernement d'opter plutôt pour l'autorisation du projet sur le site prévu à l'origine, qui a déjà été dégradé par Stablex. Cette solution aurait permis d'éviter les risques pour le vaste complexe de milieux humides de haute valeur écologique, au cœur duquel se trouve le terrain cédé à l'entreprise. Vers une relance du projet GNL Québec? Depuis le retour de Donald Trump à la présidence américaine, les partisans des énergies fossiles reviennent à la charge en plaidant pour la relance de projets d'exportation maritime du gaz naturel canadien, dont GNL Québec. Même si les évaluations environnementales du Québec et du Canada ont conclu que le projet représenterait une nuisance climatique et pour la biodiversité, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, n'a pas fermé la porte à une réévaluation de ce projet, piloté par une entreprise américaine qui réclame $1 milliard en compensation financière au fédéral en raison du rejet initial. À la base, on se souvient des conclusions du BAP, on se souvient des conclusions du ministère de l'Environnement. Si on répond à ces craintes-là, aujourd'hui, ce sont des projets qui pourraient être acceptés. Ce sont des projets étudiés à leur mérite, a-t-il affirmé en février dernier. S'il est élu, le chef conservateur Pierre Poilievre a promis de travailler à la relance de GNL Québec. La saga sur le troisième lien se poursuit. Le gouvernement Legault persiste et signe dans le dossier du troisième lien dans la région de Québec. Avant de présenter ce printemps le corridor qui serait retenu pour cet éventuel nouveau tronçon routier, il a accordé plus tôt cette année un contrat de $46 millions dans le cadre d'un mandat global d'accompagnement pour réaliser l'ensemble du projet de troisième lien, selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Cette somme s'ajoute aux quelque $36 millions dépensés dans le projet depuis 2018. Pour le moment, on ignore quelle serait la facture totale d'une telle infrastructure conçue d'abord pour favoriser les déplacements en voiture. L'an dernier, un rapport produit par CDBQ Infra à la demande du gouvernement caquiste concluait que la construction d'un nouveau lien autoroutier n'était pas nécessaire, tout en proposant la mise en place d'un réseau destiné au transport collectif. Les lois sous la loupe. Avec le projet de loi 81, actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale, le gouvernement caquiste modifiera les 8 lois sous la responsabilité du ministère de l'Environnement du Québec. L'objectif est notamment d'accélérer l'évaluation des projets tout en générant des économies pour les entreprises. Le gouvernement Legault veut d'ailleurs se donner le droit d'autoriser des travaux préalables pour certains projets, et ce, avant même l'évaluation environnementale. Le ministre de l'Environnement pourra recommander l'autorisation s'il juge que le projet favorise l'atteinte des objectifs de lutte contre la crise climatique. Des projets industriels et miniers ont déjà été décrits comme faisant partie des jalons vers la transition, comme Nordvolt. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement s'est dit préoccupé par la volonté du gouvernement de se donner le droit d'autoriser des travaux préalables. Cette nouvelle disposition risque de nuire à la crédibilité de tout le processus d'examen, prévenait l'organisme dans un mémoire déposé dans le cadre des consultations sur le projet de loi 81. C'était 5 reculs environnementaux au Québec, un texte d'Alexandre Shields paru le 22 avril 2025 dans Le Devoir.
Le Conseil québécois LGBT inquiet, mais proactif malgré le départ de son directeur général. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 20 avril 2025 dans le magazine Fugue. À l'automne 2023, James Galantino prenait les rênes du Conseil québécois LGBT. Aujourd'hui, il quitte son poste et, comme il nous le fait remarquer au début de notre rencontre, sa première entrevue comme directeur de l'organisme avait été pour le magazine Fugue et sa dernière aussi. Loin de vouloir insister sur les bons et les moins bons coups du Conseil au cours de son mandat, James Galantino, inquiet comme beaucoup de la montée des discours haineux ou encore des décisions prises par des gouvernements ouvertement homophobes et transphobes, préfère parler des actions à venir. Impossible de ne pas revenir sur cette année qui voit un net recul de l'acceptation des minorités sexuelles et de genre dans le monde, mais aussi au Québec. Impossible de ne pas revenir sur le Comité des sages et son rapport concernant les jeunes personnes souhaitant transitionner. Un rapport qui devrait être, sous toute réserve, rendu public fin mai. Sur le site du Conseil québécois LGBT, vous avez déposé plusieurs documents qui composent ce que serait, selon vous, le rapport idéal concernant les jeunes personnes trans. N'est-ce pas montrer que vous ne donnez pas un chèque en blanc au fameux rapport à venir, que vous pourriez ne pas être en parfait accord avec le contenu? Dans les dernières semaines, nous avons réitéré nos inquiétudes et rappelé nos besoins, tels que nous les avons exposés au Comité des sages lorsque nous avons été consultés. Quand le rapport du comité sera rendu public, on pourra comparer ce dernier avec ce que nous avons demandé au Comité des sages. Nous voulions que le public soit informé sur nos positions, notre rôle et la façon dont s'est passée la collaboration avec les membres du comité, l'influence que nous avions eue et les limites de notre rôle. Une question de transparence pour nous. Le Comité des sages avait son autonomie pour décider du contenu du rapport. De notre côté, nous rappelons notre autonomie pour le commenter. La mise en place de ce Comité des sages par le gouvernement Legault à l'automne 2023 n'a pas fait l'unanimité des groupes LGBTQ+. Vous avez fait le choix de collaborer avec cette instance? Dès l'annonce de sa mise en place, nous avons dénoncé l'existence de ce comité, entre autres sa composition, son mandat. Cela a été dit et redit dès le début. Mais quand nous avons vu qu'il se mettait en place, nous avons préféré que cela ait lieu avec nous que sans nous, pour avoir une relation privilégiée, d'autant que le mandat du comité a été modifié pour que nous soyons amenés à collaborer. Nous avons eu des rencontres très fréquentes avec le comité, parfois mensuelles, parfois aux deux semaines. Nous avons pu ainsi influencer ce rapport pour que ce rapport soit le plus bénéfique pour nos communautés. Il fallait que l'on soit là et je crois que nous avons eu un poids dans la décision et que nous avons bien joué notre rôle comme représentants-représentantes. Je pense que c'était le rôle du Conseil LGBT. Je comprends que, pour beaucoup, ce n'était pas le meilleur choix stratégique, mais dans notre mission au Conseil LGBTQ, il était important qu'on y soit, même si nous pensions que sa création n'était pas la bonne réponse pour répondre à la polarisation sur les enjeux des questions de genre. Nous avons pensé qu'il valait mieux qu'il y ait quelqu'un que personne, même si nous étions contre l'existence de ce comité. Depuis plus d'un an, on assiste à la montée des discours haineux et on ne voit pas de réponse forte et solidaire, ou encore concertée de la part des organismes communautaires, si ce n'est depuis 3 mois, des amorces de réponses. C'est la question qui est sur ma table et qui me hante depuis 1 an et demi, depuis que je suis en poste. Avec les moyens limités que l'on a, il est difficile d'en faire plus et surtout plus rapidement. Les résultats des enquêtes du Gris Montréal et d'Interligne ne nous surprennent pas, mais ce sont des données qui donnent un portrait de la réalité et sur lesquelles se fonder pour envisager des actions plus fortes. Une des récentes initiatives du Conseil québécois LGBT, c'est la Coalition contre la haine pour aller chercher plus de financement, avec l'idée d'aller chercher des alliés dans le milieu associatif, corporatif et privé, et les syndicats. nous avons avantage à mobiliser nos alliés pour ne pas être seuls. Les dossiers nous prennent beaucoup de temps et d'énergie, comme la réponse au comité des sages quand il aura rendu son rapport, ou encore avec l'élection d'un nouveau gouvernement fédéral pour s'assurer qu'il ait à cœur les enjeux de nos communautés. Nous avons besoin de ressources pour répondre à tout cela. Nous avons aussi des projets que l'on veut plus structurants, comme le projet qui s'appelle « Fausses nouvelles, vrais impacts », qui porte sur la désinformation qui circule rapidement sur les réseaux sociaux. Donc, une campagne pour contrer les discours, mais aussi pour mieux outiller nos membres à prendre soin d'eux-mêmes. Nous avons besoin de plus d'actions concertées et gouvernementales qui s'attaquent spécifiquement à ces mouvements de radicalisation, créer un plus grand mouvement pour obtenir des fonds supplémentaires, pour organiser une réponse. Parlant du gouvernement, la ministre responsable du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, s'inquiétait de la montée de la haine, comme elle le soulignait lors de la présentation du deuxième plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie en mars 2023. Or, il n'y a jamais eu, de la part de son bureau ni même du gouvernement, de réponse ou d'action pour contrer ce recul. J'ai eu une rencontre avec Martine Biron en janvier dernier, où on lui demandait d'avoir des prises de position publiques qui soient plus fermes dans le soutien et la non-acceptation de la violence et des discours haineux envers nos communautés. Effectivement, nous avons besoin de leadership gouvernemental et de courage politique, en fait pour affirmer plus fermement et plus régulièrement que la violence et les discours haineux n'ont pas leur place au Québec. On continue de pousser dans ce sens. Je sais que Mme Biron est très sensible à cette demande. On a une bonne relation avec le cabinet de Mme Biron et celui-ci nous réitère son intention de prendre la parole contre l'homophobie et la transphobie. Cependant, malgré le nouveau plan de lutte déposé en mars 2023 et les sommes historiques allouées aux organismes, devant le recul auquel on assiste, c'est encore insuffisant. Il y a une campagne gouvernementale qui est en cours de préparation et qui va sortir. Cette campagne était incluse dans le plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie et nous l'attendons avec impatience. Le Conseil québécois LGBT continue de porter les voix de nos communautés pour informer et influencer le gouvernement pour que des décisions soient prises et que des changements soient apportés. C'était le Conseil québécois LGBT. Inquiet, mais proactif malgré le départ de son directeur général. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 20 avril 2025 dans le magazine Fugue.